Rencontre,
une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.
Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 12 novembre 2018. Comme vous le savez, et au-delà de la thématique principale de cette émission consacrée à la connaissance du monde musulman, je n'oublie jamais ni la ligne éditoriale de notre station, radio ouverte et laïque, ni mon engagement personnel de vous faire connaître les associations de terrain qui travaillent pour le dialogue entre communautés et religions. Nous avons reçu quasiment toutes celles, donc travaillant pour le rapprochement entre juifs et musulmans, ou différentes confessions, et j'avais eu le plaisir de recevoir, il y a déjà 6 ans, le président de la Fraternité d'Abraham, association qui œuvre pour le dialogue entre les 3 grandes familles du monothéisme. Mais depuis 2012, elle a accompli beaucoup de réalisations, et c'est pourquoi j'ai le plaisir d'avoir à nouveau son président comme invité. Bonjour Edmond Lille.
Bonjour Jean.
Alors, un rappel, mes amis auditeurs savent que je travaille aussi en dehors de la radio, justement pour ce dialogue interreligieux. C'est ainsi, cher président, que vous m'avez fait l'honneur de m'accepter dans votre bureau où je suis actuellement, donc un des 3 vice-présidents. Et chaque vice-présidence représente une des 3 religions monothéistes. Alors, je m'efforcerai de ne pas mélanger les genres, je resterai dans mon rôle de journaliste, même si j'ai vécu de l'intérieur l'énorme travail bénévole réalisé par mes amis de la fraternité. Edmond Lille, beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas encore cette association. Pouvez-vous la présenter en quelques minutes? Quand a-t-elle été fondée? Quels en ont été les promoteurs? Et quels sont ses buts?
Alors, elle a été fondée à une date et dans un lieu très historique. La date, c'était début juin 1967, en pleine guerre des 6 jours. Et le lieu, c'était la Grande Mosquée de Paris.
Très bien.
Mais ses origines remontent quelques années auparavant, à la fin du Concile de Vatican II, 1962-1965, et la publication du texte final Nostra Aetate, qui d'abord, du point de vue chrétien ou catholique en tout cas, mais les protestants n'étaient pas en défaut, reconnaissait enfin les origines juives du christianisme, sous tous ses aspects, mais Nostra Aetate poussait plus loin, disant maintenant il faut ouvrir le dialogue avec les autres religions, et d'abord avec l'autre religion monothéiste, l'islam.
Alors, quels étaient les fondateurs?
Alors, les fondateurs, c'était André Chouraki, le traducteur de la Bible, ancien Bible hébraïque, Nouveau Testament, et traducteur également du Coran. Le recteur de la mosquée de Paris de l'époque, c'est Hamza Boubaker, grand professeur de l'islam et traducteur lui aussi du Coran en français. Jacques Nanté, qui était un diplomate et un journaliste, le gendre de Claudel, est très impliqué dans la reconnaissance, là aussi, du judaïsme du point de vue chrétien. La grande tradition claudélienne, comme Peggy, reconnaissant les origines juives du christianisme. Et puis Jacques Nanté, André Chouraki, et puis le père Michel Riquet, le jésuite, déporté à Dachau, qui avait sauvé beaucoup de juifs, et qui lui aussi a reconnu, du point de vue chrétien, les origines juives du christianisme.
Alors, merci Edmond Lille. Alors, le temps file, sans rentrer dans les détails, est-ce que les instances officielles des grandes religions, juives, chrétiennes, musulmanes, parrainent en quelque sorte la fraternité, reconnaissent?
Oui, absolument. Nous avons un comité de parrainage où siègent les plus hautes autorités chrétiennes, juives et musulmanes. Chrétien, c'est le Monseigneur Aupetit, le nouvel archevêque de Paris, mais c'est aussi le cardinal Barbarin, André XXIII. Du côté juif, l'ancien grand rabbin Gilles Bernheim, l'actuel grand rabbin Chaim Korsia. Et côté musulman, c'est le recteur de la mosquée de Paris. Mais aussi, on a des orthodoxes et des protestants.
Très bien. Alors, une association vivante ne peut exister de nos jours sans un site internet. Et je dois dire que celui de la Fraternité d'Abraham a été complètement rénové, donc, depuis 2014. Il est extrêmement riche et réactif sur l'actualité. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner son adresse?
Son adresse, c'est www.fraternitédabraham, sans accent et sans...
Tout attaché.
Et tout attaché, .com. Et là, vous avez accédé directement au site.
Alors, est-ce que ça permet, par exemple, d'adhérer à l'association quand on y va?
Oui, alors, il faut vous inscrire.
Bien sûr.
Il y a toute une procédure d'inscription qui figure sur le site. Mais il y a aussi, et j'insiste, les dernières actualités. Nous tenons à tenir le public informé des actualités les plus récentes. Intéressant, les 3 famille monothéiste, mais plus généralement en activité culturelle. Nous annonçons par exemple une prochaine conférence à Cordoba sur l'histoire du Temple de Jérusalem.
Alors, on en reparlera plus en détail pour ce qui concerne nos activités à oui. nous, hein, que nous annonçons. En parallèle, peut-être une question sur notre revue, parce que elle est ancienne déjà, cette revue. Hein. On est, je crois, au numéro 178 ou 179.
Tout à fait.
Elle paraît donc tous les trois mois, mais on peut la lire aussi partiellement sur le site. Est-ce que vous pouvez nous en dire
oui,
un peu
absolument.
Plus ?
Absolument. Alors, la revue paraît sur le site. Chaque fois que chaque numéro paraît, on annonce la revue avec la page de couverture. L'éditorial figure intégralement sur le site.
On peut le lire, oui.
Intégralement. Et alors, on fait paraître sur le site les autres articles, mais avec un délai d'un an.
D'accord. Donc après, on peut
après,
avoir
on
accès
peut tout
et on peut tout
alors,
lire.
Les plus anciens numéros ont été numérisés et on commence à y avoir accédé aux numéros plus anciens. Parce que, comme vous le disiez, nous en sommes à 179 ou 180 numéros. Et il y a des rubriques extrêmement importantes dans les numéros anciens.
Absolument. Alors, j'ai eu le plaisir de recevoir ici, il y a quelques semaines, Tania Heitzig, à propos de son beau livre « Au nom du Père et des Fils ». Et vous en aviez écrit, Edmond Lille, une introduction très dense. Alors, je vais juste citer deux extraits. Le premier, « Les trois monothéismes se réclament chacun la même révélation, celle de la Bible hébraïque. » Mais alors, un peu plus loin, vous écrivez, « Comment se fait-il alors que cette commune révélation, annoncée puis reconfirmée à des études différentes, dans des langues et des populations distinctes, soit devenue source de conflits ?» Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? À la fois concernant le rapport de l'islam et de la chrétienté vis-à-vis des juifs, mais aussi, on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il eu des guerres de religion entre musulmans ou entre chrétiens, par exemple ?
Alors, je crois qu'il y a peut-être deux raisons ici, majeures, il y en a beaucoup, des raisons culturelles et historiques, mais deux raisons majeures. D'abord, ce que j'appellerais le rejet du père. La religion qui démarre, je prends le christianisme. Mmh. Alors, Jésus était juif, sa mère était juive, son père était juif, ses frères, tous ses disciples étaient juifs. Comment se fait-il que, quelques siècles plus tard, le christianisme d'origine non-juive, mais surtout grec et latin, est rejeté ? Et je mets ceci sur le compte du rejet du père, ce qui est un phénomène psychologique bien connu. Et je crois qu'il y a eu ce phénomène-là.
À la même chose pour l'islam, alors.
Des enfants ont voulu s'approprier tout l'héritage et dire « c'est nous qui tenons la vérité ». C'est l'Église se prétendant le verrou Israël.
Oui.
Il a fallu attendre 2000 ans, et Vatican II, pour balayer cette conception. Mais je dirais, quand l'islam est arrivé, c'est le même phénomène. Mohammed est venu, il a largement puisé dans la tradition juive, pas mal dans la tradition chrétienne, il connaissait bien les hérésies chrétiennes de son époque, au VIe siècle de notre ère, et il a dit « Moi, je ne récuse aucun des devanciers, Abraham, les prophètes, Jésus, tout ça, ce sont nos prophètes, mais beaucoup d'entre eux ont été infidèles. » Et l'islam aussi a pratiqué le rejet du père, des deux, du père et du grand-père, en l'occurrence, le judaïsme et le christianisme, en disant « C'est nous qui détenons la vérité. »
Mais alors, les conflits interchrétiens et intermusulmans, ça n'a rien à voir, c'est un autre...
Non, mais alors là, il y a eu des conflits internes entre les musulmans qui continuent nos jours, malheureusement. Mais ici, je dirais qu'il y a aussi, tout comme entre les chrétiens, le premier conflit entre les chrétiens, c'est le grand schisme d'Orient, entre les chrétiens d'Orient, du Proche-Orient aujourd'hui, et les chrétiens d'Occident, l'ancien empire de Rome, ça c'est au Xe siècle. Et le schisme profond entre ce qui était à l'époque les catholiques, les chrétiens occidentaux et les chrétiens orthodoxes, qui subissent de nos jours. Il y a eu la réconciliation toute récente entre le pape François et le patriarche de Constantinople, abrogeant les excommunications réciproques 1000 ans plus tôt.
Alors, le technicien me fait signe qu'il nous reste 3 minutes avant la pause, donc on a juste le temps d'aborder la dernière question, qui est peut-être la plus délicate. Parce qu'il y a un conflit qui existe malheureusement depuis 100 ans, c'est l'interminable affrontement entre Israéliens et Palestiniens. Seulement, malheureusement, il prend de plus en plus une connotation religieuse. Et c'est pour ça qu'au niveau de la fraternité, bon, y a ce besoin un peu de se positionner. Je pense en particulier à un numéro spécial qui a été consacré à Jérusalem dans notre revue. Ce sont des sujets explosifs. Comment arrivez-vous à positionner la fraternité d'Abraham sans heurter les uns et les autres ? Ce n'est pas évident.
Oui, alors ce n'est pas facile, mais je dirais ici que les religions sont facteurs de paix et non pas source de conflit. quand je dis dans ma réponse à la précédente question, il y avait deux origines. La deuxième, je n'avais pas traité, je la traite maintenant. C'est l'instrumentalisation de la religion par le politique.
Par le politique.
Et ceci a été fait dès le début. Lorsque le christianisme est devenu religion d'État au IVe siècle, sous Constantin, le christianisme était, au fond, persécuté dans l'Empire romain. Constantin a voulu unifier l'Empire, lui donner une seule religion, le christianisme, et il a traité d'hérétiques tous les autres. Les juifs d'abord, les hérésies chrétiennes, il n'y avait pas encore l'islam. Et il a fait son instrument de pouvoir. Mohammed, au début, a été chef religieux et spirituel. Il a fait les deux. Et je crois qu'il y a toujours eu cette tendance, les religions, d'instrumenter des pouvoirs politiques. Et les guerres de religion entre chrétiens pendant 4 siècles en Europe, ça a été le pouvoir temporel accaparant le pouvoir spirituel.
Eh ben, c'est bien de le rappeler à l'antenne, mais surtout de rentrer dans les détails au niveau de la revue, parce que c'est hélas tout à fait fondamental. Hein. On a l'impression, effectivement, qu'il y a des intérêts politiques qui empêchent que ce conflit trouve une solution.
Ah, tout à fait.
Et ça dure depuis longtemps. Merci donc Edmond Lille pour cette première série de réponses. Amis auditeurs, nous nous retrouvons comme d'habitude dans 2 minutes après la pause publicitaire.